L'esprit de la chambre aux armoires, de Wilkie Collins. Monsieur Beaver, étant ailé, comme appelait cela son ami et allié Jack Governor, sortit de son hamac imaginaire avec la plus grande promptitude et alla tout droit faire son devoir. « Comme c'est Monsieur Beaver qui est de quart, dit-il, je ne ferai pas le paresseux. » Son ami Jack me regarda avec des yeux remplis d'espérances et d'admiration, et, en les tournant sur Nat Beaver, il semblait le féliciter d'avance. Je remarquai, entre parenthèses, que Jack, par une distraction de marin qui s'empare tout à fait de lui de temps en temps, avait mis le bras autour de la taille de ma sœur. Peut-être cette mauvaise habitude vient-elle d'une ancienne nécessité nautique de se retenir toujours à quelque chose. Voici la révélation que M. Beaver nous fit. « Ce que j'ai à vous raconter, dit-il, ne nous prendra pas beaucoup de temps. Je demanderai la permission de commencer en me reportant à hier soir, à peu près au moment où nous nous sommes séparés, pour aller nous coucher. » Tous les membres de cette honorable compagnie firent une chose très nécessaire et très ordinaire. Hier soir, chacun d'eux prit un bougeoir et alluma sa bougie avant de monter. Je m'étonne que personne n'ait remarqué que je laissais mon bougeoir intact et ma bougie non allumée et que j'allais me coucher dans le premier endroit venu, en pleine ténèbres, dans la maison hantée. Je crois que personne n'a fait attention à cela. Voici qui est un peu curieux pour commencer mon histoire. Il est aussi très curieux et très vrai, cependant, que la seule vue de ces bougeoirs entre les mains de l'honorable compagnie me fit trembler, m'occasionna de mauvais rêves à la place d'un bon sommeil, mais le fait est, et je vous permets, mesdames et messieurs, d'en rire autant que vous voudrez, que l'esprit qui m'est apparu cette nuit et à différentes époques depuis plusieurs années, et qui m'apparaîtra jusqu'à ce que je sois moi-même un esprit, et par conséquent, sous tous les rapports à l'abri des esprits, n'est ni plus ni moins qu'un bougeoir, oui, un bougeoir et une bougie, ou un chandelier plat et une bougie. Choisissez ce que vous aimez le mieux. Voilà ce qui me hante continuellement. Je voudrais que ce fût quelque chose de plus agréable et de moins ordinaire, une belle femme, une mine d'or ou d'argent, une cave remplie de bon vin, une voiture et des chevaux, ou autre chose pareille. Mais cette apparition étant tout simplement ce qu'elle est, il faut que je l'accepte telle qu'elle et en tire le meilleur parti possible. Je vous remercierai tous bien sincèrement si vous voulez m'aider en faisant de même. Je ne suis pas un érudit, mais j'ai la hardiesse de croire que tout homme qui est hanté par n'importe quoi sous le soleil doit commencer à éprouver un sentiment de frayeur. Dans tous les cas, ma première apparition a commencé avec un bougeoir et une bougie, ce qui m'a fait, pour la moitié de ma vie, des bougeoirs et des bougies, mesdames et messieurs, et ce sont ces mêmes choses qui, dans ce moment même, m'effraient à me faire perdre la tête. Ce n'est pas une chose très agréable de vous avouer tout ceci avant d'entrer dans les détails. Mais peut-être, lorsque vous m'aurez entendu, serez-vous plus disposés à croire que je ne suis pas tout à fait un lâche et trouverez-vous qu'il y a déjà quelque hardiesse à vous ouvrir si franchement mon cœur sur des choses qui sont tant à mon désavantage. Voici donc les détails aussi clairs que je puis les donner. On me lança sur la mer pour faire mon apprentissage lorsque j'étais à peine aussi haut que ma canne. J'avais fait un assez bon usage de mon temps pour qu'à 25 ans, on me jugeât capable de remplir le poste de second. C'était dans l'année 1918 ou 1819, je ne suis pas certain de laquelle, que j'atteignais l'âge déjà mentionné de 25 ans. Vous aurez la bonté d'être indulgent, ma mémoire ne me servant pas très bien pour les dates, les noms, les chiffres, les lieux et autres choses analogues. Cependant, ne craignez rien pour les détails que j'ai entrepris de vous donner, je les ai tous gravés dans ma mémoire. En ce moment, ma pensée les voit tous aussi clairement que le jour même. Mais il y a malgré cela une certaine obscurité sur ce qui arriva avant cette époque et aussi une espèce de brouillard sur ce qui suivit, et il n'est pas très probable qu'à mon âge, il se dissipe entièrement, n'est-ce pas ? Eh bien donc, dans l'année 1818 ou 1819, lorsque la paix régnait dans cette partie de ce monde, vous allez dire que ce n'était pas sans besoin, il y avait une lutte acharnée engagée sur ces vieux champs de bataille que nous autres, marins, connaissons sous le nom de continent espagnol. Ce pays de l'Amérique du Sud, qui appartenait aux Espagnols, s'était soulevé quelques années auparavant et avait proclamé son indépendance. Il y eut beaucoup de sang répandu, tant du côté des partisans du nouveau gouvernement que du côté de l'ancien. Mais le premier finit par être le plus fort, ayant à sa tête le général Bolivar, un homme fameux à cette époque, quoique de nos jours il soit sorti de la mémoire du peuple. Des Anglais et des Irlandais, ayant le goût de se battre et rien de particulier à faire chez eux, allèrent rejoindre le général comme volontaire, et quelques-uns de nos négociants anglais trouvèrent que c'était une bonne occasion pour envoyer leurs marchandises à travers l'océan afin d'approvisionner le Parti populaire. Nécessairement, on courait beaucoup de risques en faisant cette entreprise, mais quand une de ces spéculations venait à réussir, c'était une compensation au moins pour deux qui manquaient. Voilà le vrai principe du commerce, partout où je l'ai vu faire dans le monde. Parmi les Anglais engagés dans cette affaire espagnole-américaine, il faut compter votre humble serviteur qui y prit une petite part. J'étais alors second sur un brick appartenant à une certaine maison de la cité de Londres qui faisait le commerce en général avec la plupart des contrées les plus inconnues et les plus impossibles et aussi éloignées de l'Angleterre qu'il était possible. Dans l'année dont je parle, cette maison avait frété un brick et l'avait chargé d'une cargaison de poudre à canon pour le général Bolivar et ses volontaires. Quand nous mîmes à la voile, personne ne connaissait les ordres que nous avions reçus, sauf le capitaine du navire, et il n'avait pas l'air de s'en soucier beaucoup. Je ne puis dire au juste combien de barils de poudre nous avions à bord et quelle quantité chaque baril contenait. Je sais seulement que nous n'avions pas d'autre cargaison. Le brick portait le nom de la Bonne Intention, un singulier nom, me direz-vous, pour un vaisseau chargé de poudre à canon qu'on envoyait aider une révolte. Et tout le temps que le voyage dura, ce fut une manière de plaisanterie. J'ai dit cela pour vous faire rire, mesdames et messieurs, et je regrette de voir que vous n'en faites rien. La Bonne Intention était de tous les navires sur lesquels j'ai jamais voyagé la carcasse la plus détraquée et la plus mauvaise qui soit possible. Il était d'environ 230 ou 280 tonneaux, je ne sais plus bien. L'équipage comptait environ 8 hommes, nombre bien inférieur à celui que nous aurions dû avoir pour faire manœuvrer le vaisseau. Cependant, on nous payait bien honnêtement et bien largement pour compenser la double chance que nous courions de sombrer ou de sauter en l'air par l'explosion des poudres. En raison de la nature de notre cargaison, on nous fatiguait de nouveaux règlements que nous ne trouvions pas du tout à notre goût, relatifs à la manière de fumer nos pipes et d'allumer nos lanternes. Et, comme d'ordinaire, en de pareilles occasions, le capitaine qui avait fait les règlements prêchait ce qu'il ne mettait pas en pratique. Il n'était permis à personne d'entre nous d'avoir dans la main un bout de chandelle lorsqu'il descendait dans la cale. Le patron faisait exception à cette règle générale et se servait de sa lumière quand il faisait son inspection ou quand il parcourait ses cartes étendues sur la table dans la cabine, tout comme à l'ordinaire. Cette lumière était une chandelle vulgaire, comme celle que l'on brûle dans les cuisines, de celles dont il y a 8 ou 10 dans une livre. Celle du patron était posée dans un vilain vieux chandelier dont la peinture vernie était usée et laissait voir le fer blanc en dessous. Il eût été à tous égards plus convenable pour un officier de marine de se servir d'une lampe ou d'une lanterne, mais il tenait beaucoup à son vieux bougeoir, il y adhérait. Et ce même vieux bougeoir, mesdames et messieurs, s'est depuis attaché à moi. Voilà ce qui est risible, si vous voulez, et je sais bon gré à Miss Belinda d'avoir eu l'obligeance d'en rire dans son coin. Eh bien, j'ai déjà dit « eh bien », c'est un mot qui nous aide à continuer. Nous mîmes le brick à la voile, dirigeant notre course, d'abord vers les îles Vierges et les Indes occidentales, et, après les avoir vues, nous nous dirigeâmes du côté des îles Leeward, puis tout à fait au sud, jusqu'au moment où celui qui était en vigie, sur la tête du mât, est là en disant qu'il voyait la terre. Cette terre était la côte de l'Amérique du Sud. Jusque-là, nous avions fait un merveilleux voyage. Nous n'avions perdu ni espars ni voile, et aucun homme parmi nous ne s'était fatigué au service des pompes. La bonne intention avait rarement fait un aussi bon voyage, je puis vous l'assurer. On m'envoya en haut du mât pour m'assurer si c'était bien la terre et je l'affirmai positivement. Lorsque j'eus constaté le fait, le patron descendit dans sa cabine pour consulter ses instructions et sa carte, puis il revint sur le pont et commanda de se diriger un peu vers l'est. J'oublie le point exact indiqué par la boussole, mais cela importe peu. Ce que je me rappelle très bien, c'est qu'il faisait nuit avant que nous atteignîmes la terre. Nous sondions fréquemment, dans 4 ou 5 brassées d'eau, peut-être 6, je ne puis rien dire de certain. Je tenais un œil vigilant sur la direction que prenait le vaisseau, parce que tous ignoraient les courants de cette partie de la côte. Nous nous demandions tous pourquoi le patron ne faisait pas jeter l'ancre. Mais lorsqu'on le lui demandait, il répondait qu'il fallait d'abord qu'il fît monter une lumière au mât de misaine et qu'il attendit qu'une lumière du rivage répondît à son signal. Nous regardions et rien de semblable ne paraissait. Il faisait un temps calme, les étoiles brillaient et quelques petites bouffées de vent nous arrivaient de terre. Nous attendîmes, je suppose, à peu près 1 heure en dérivant à l'ouest. Et alors, au lieu de voir une lumière sur le rivage, nous aperçûmes un bateau qui se dirigeait vers nous et dans lequel 2 hommes seulement ramaient. Nous les hélâmes et ils répondirent « Amis » en nous appelant par nos noms. Ils arrivèrent à bord. L'un d'eux était irlandais, l'autre un pilote indigène, couleur café, qui baragouinait un peu d'anglais. L'irlandais présenta un billet à notre patron qui, à son tour, me le montra. Ce billet nous prévenait que la partie de la côte où nous nous trouvions n'était pas un endroit très sûr pour décharger notre cargaison, vu que des espions de l'ennemi, c'est-à-dire ceux de l'ancien gouvernement, avaient été pris et fusillés dans le voisinage le jour précédent. Ils nous affirmaient que nous pouvions nous fier aux pilotes indigènes qui avaient reçu l'ordre de nous conduire à une autre partie de la côte. Le billet était signé par des autorités dignes de foi. De sorte que nous laissâmes l'Irlandais retourner tout seul dans le bateau et permîmes au pilote d'exercer une autorité légale sur le brick. Il nous tint éloigné de terre jusqu'à midi le lendemain. Ses instructions semblaient lui enjoindre de nous garder hors de vue du rivage. Nous changeâmes de direction seulement vers l'après-midi, de sorte que nous n'approchâmes de la terre qu'un peu avant minuit. Ce pilote était un vaurien de la plus mauvaise mine que j'ai jamais vue. Un métis décharné, lâche et querelleur, qui jurait après tout l'équipage, dans le plus vil et le plus mauvais anglais, à tel point que chacun était disposé à le jeter à la mer. Le patron calma nos hommes et j'essayai d'en faire autant. Car le pilote nous ayant été envoyé pour nous transmettre des instructions, nous étions obligés d'agir pour le mieux avec lui. Cependant, à la nuit tombante, et malgré toute la bonne volonté du monde pour l'éviter, je fus assez malheureux pour me disputer avec lui. Il voulait descendre dans la cale avec sa pipe, et nécessairement, je l'en empêchai parce que c'était défendu. Il essaya de passer malgré moi, et je l'écartai avec ma main. Je n'avais pas l'intention de le faire tomber, mais malgré tout, il tomba. Il se releva aussi promptement que l'éclair et tira son couteau. Je l'arrachai de sa main en lui donnant un soufflet et je jetai l'arme meurtrière par-dessus bord. Il me lança un affreux regard et s'en alla à l'arrière. Je ne fis pas grande attention à ce regard sur le moment, mais je ne me le rappelai que trop bien plus tard. Nous touchions terre entre 11 heures et minuit, juste au moment où le vent venait de tomber, et selon les ordres du pilote, nous jetions l'ancre. Il faisait noir comme dans un puits et il régnait un calme de mort. Le patron était sur le pont avec 2 de nos meilleurs hommes pour veiller. Le reste de l'équipage était en bas, à l'exception du pilote qui, sur le gaillard d'avant, se repliait sur lui-même, plutôt comme un serpent que comme un homme. Ce n'était mon tour de garde qu'à 4 heures du matin. Mais je n'aimais pas l'apparence de la nuit, ni celle du pilote, ni l'état des choses en général. Je m'étendis sur le pont pour prendre un peu de sommeil, afin d'être prêt à tout événement. Le dernier détail dont je me souvienne est que le patron me dit tout bas que lui non plus n'était pas satisfait de tout ce qu'il voyait et qu'il descendit pour consulter de nouveau les ordres. Voilà la dernière chose que je me rappelle avant que le mouvement lent, lourd et régulier du vieux brick, en s'avançant vers la terre, ne m'endormît. Je fus éveillé, mesdames et messieurs, par le bruit d'une lutte sur le gaillard d'avant et en sentant que l'on me bâillonnait. Il y avait un homme sur ma poitrine et un homme sur mes jambes, et dans l'espace d'une demi-minute, j'eus les pieds et les mains liés. Le brick était entre les mains des Espagnols, il fourmillait partout. J'entendis le bruit de six corps tombant lourdement les uns après les autres dans la mer. Je vis poignarder le patron comme il montait le capot d'échelle, puis j'entendis le bruit d'un septième corps tomber à l'eau. Tout l'équipage, excepté moi, avait été assassiné et jeté à la mer. Je ne pouvais m'imaginer pourquoi on m'avait épargné jusqu'au moment où je vis le pilote se pencher sur moi, une lanterne à la main, et me regarder fixement comme pour s'assurer qui j'étais. Il avait un sourire diabolique sur sa figure et il secouait la tête comme pour me dire « C'est vous qui m'avez fait tomber et donner un soufflet et je vais en retour jouer avec vous comme un chat joue avec une souris. » Je ne pouvais ni remuer ni parler, mais je voyais les Espagnols enlever les coutilles et garnir les appareils pour monter la cargaison. Un quart d'heure après, j'entendis dans l'eau les rames d'une chaloupe ou de quelque autre petite embarcation. Le navire étranger était resté tout près de nous et les Espagnols commençaient à transporter notre cargaison. Ils travaillaient tous avec énergie, excepté le pilote. Celui-ci venait de temps en temps avec sa lanterne pour me regarder de nouveau et faire des grimaces, toujours avec la même manière diabolique. Je suis maintenant assez âgé pour ne pas avoir honte d'avouer la vérité et je ne rougis pas de dire que le pilote me faisait peur. La frayeur, les blessures causées par les cordes, la gêne d'être bâillonné et de ne pouvoir remuer ni pieds ni mains m'avaient épuisé pendant que les Espagnols étaient tout à leur travail. L'aube venait de poindre. Ils avaient déjà une grande partie de notre cargaison sur leur navire, mais pas tout à fait tout, et ils furent assez rusés pour s'en aller avec ceux qu'ils avaient pris avant le jour. Il n'est pas nécessaire de dire que j'avais pris mon parti et que je m'attendais à tout ce qu'il y a de pire. Le pilote était un espion appartenant à nos ennemis. Il s'était insinué dans les bonnes grâces de mes consignataires sans qu'ils pussent se méfier de lui et probablement que ceux qui l'employaient avaient pris assez de renseignements sur nous pour se méfier de la nature de notre cargaison. Il nous avait fait mouiller pendant la nuit dans la rade la plus commode pour nous y faire surprendre et nous avions payé la faute d'avoir un petit équipage et par conséquent une surveillance insuffisante. Tout cela était assez clair, mais que voulait faire de moi ce pilote? Sur ma parole d'homme, je frissonne encore à cette heure, rien qu'en vous racontant ce qu'il me fit souffrir. Lorsque tous les Espagnols eurent quitté le brick, à l'exception du pilote et de deux matelots, ces deux derniers me prirent, liés et bâillonnés comme je l'étais, me descendirent dans la cale du vaisseau et m'étendirent sur le plancher en me liant avec des cordes, de manière qu'à peine si je pouvais me tourner d'un côté ou de l'autre. Mais il m'était impossible de me rouler et de changer de place. Puis ils me quittèrent. Tous deux étaient ivres, mais le démon de pilote était sobre. Imaginez cela, aussi sobre que je le suis moi-même en ce moment. Je restai dans les ténèbres pendant quelque temps. Mon cœur sautait dans ma poitrine comme s'il voulait en sortir. Je passai 5 minutes ainsi, puis le pilote descendit seul dans la cale. Il portait le maudit bougeoir du capitaine et le poinçon d'un menuisier d'une main. Dans l'autre, il tenait une corde longue et mince de fil de coton bien huilé. Il posa le bougeoir, avec une chandelle entière allumée sur le plancher, à environ 2 pieds de ma figure, contre le flanc du vaisseau. La lumière était assez faible, mais suffisante pour me laisser voir autour de moi, dans la cale, une douzaine et plus de barils de poudre. Je commençai à me douter de ses intentions dès que j'aperçus les barils, l'horreur me fit frissonner des pieds à la tête et la sueur tomba de ma figure comme de l'eau. Puis je le vis aller vers un baril de poudre qui était placé contre le flanc du vaisseau, en ligne directe avec la chandelle, mais éloigné environ de 3 pieds. Il fit un trou dans le baril avec le poinçon et l'horrible poudre sortit en ruisselant, noire comme l'enfer, et tomba dans la paume de sa main qu'il avait placée de manière à la recevoir. Lorsque sa main fut pleine, il reboucha le trou avec un bout de la corde de coton huilé, puis il roula le reste de la corde dans la poudre jusqu'à ce que chacun de ses brins fût tout à fait noir. Voilà la première chose qu'il fit. C'est aussi vrai que je suis ici et aussi vrai que le ciel est au-dessus de nous. La seconde fut de porter le bout libre de son effroyable mèche longue, maigre et noire, à la chandelle, tout près de ma figure. Il l'attacha en la roulant à plusieurs reprises autour de la chandelle, à une distance égale de la flamme et du bougeoir. Voilà ce qu'il fit. Puis il regarda pour voir si mes liens étaient solides, et penchant sa figure contre la mienne, il murmura à mon oreille « Tu sauteras avec le brick ». Un moment après, il était sur le pont. Lui et ses deux camarades poussèrent l'écoutille sur moi. Le bord de l'écoutille, dont j'étais le plus rapproché, n'était pas hermétiquement fermé, et en tournant les yeux de ce côté, je vis une petite fente par laquelle brillait le jour. J'entendis tomber dans l'eau les rames de la chaloupe et les flac, flac, flac devenir de plus en plus faibles pendant qu'il avançait au milieu d'un calme profond jusqu'à ce que le vent le poussât au large. Tandis que ces sons résonnaient à mes oreilles, j'avais les yeux fixés sur la chandelle. Elle venait d'être nouvellement allumée. En l'abandonnant à elle-même, elle devait brûler 6 à 7 heures. La mèche qui communiquait au baril de poudre et qui était tortillée autour de la chandelle, à peu près au tiers, ne devait par conséquent être atteinte par la flamme que dans 2 heures environ. J'étais donc là, lié, bâillonné, attaché au plancher, contemplant ma propre vie qui se consumait en même temps que la chandelle qui était à côté de moi. J'étais seul sur la mer, destiné à sauter en atomes, attendant le fatal moment qui devenait de plus en plus proche de minute en seconde, et cela pendant 2 longues heures, sans que je puisse m'aider ni parler pour appeler à mon secours. Ce qui m'étonne le plus, c'est que je n'ai pas fait faux bond à la flamme, à la mèche et à la poudre, et que je ne sois pas mort d'horreur en songeant à ma position sur ce brick avant que la première demi-heure se fût écoulée. Je ne puis dire exactement combien de temps je gardais la plénitude de ma raison après que j'eus cessé d'entendre le bruit des rames du schooner. Jusqu'à un certain point, je pus retrouver tout ce que je fis et tout ce que je pensais. Mais, une fois ce point passé, tout ce qui m'entourait s'embrouille et je me perds dans mes souvenirs aussi bien que dans mes propres sensations. Au moment où l'écoutille avait été rejetée sur moi, je commençais à faire ce que tout homme eût fait à ma place. Des efforts frénétiques pour me libérer les mains. Dans la folle frayeur qui s'était emparée de moi, je me coupais la chair avec les cordes comme si elles avaient été des lames de couteau. Mais je ne pus jamais parvenir à les remuer et j'avais encore beaucoup moins de chances de me libérer les jambes et de m'arracher aux liens qui m'attachaient au plancher quand je fus presque suffoqué par le manque de respiration. Je renonçais à ce fol espoir. Ayez la bonté de vous souvenir que le bâillon était pour moi un ennemi terrible. Je ne pouvais respirer librement que par le nez. Et ce n'est qu'une pauvre ressource quand un homme déploie ses forces autant que possible. Je n'en pouvais plus et je restais tranquille jusqu'à ce que j'eusse retrouvé mon souffle. Mes yeux brûlants restèrent fixés sur la chandelle durant tout ce temps. Pendant que je la regardais ainsi, l'idée me vint d'essayer de souffler la flamme en faisant passer tout à coup, comme par une pompe, ma respiration que j'avais retenue par mes narines. Mais elle était placée trop haut et trop loin de moi pour être atteinte de cette façon. J'essayais encore, puis j'abandonnais cette idée et je restais tranquille, mes yeux toujours fixés sur la chandelle, et la chandelle semblait toujours me regarder. Le bruit des rames était devenu très faible pendant ce temps. À peine pouvais-je l'entendre encore au milieu du calme de la matinée. Flac, flac, de plus en plus faible, flac, flac. Sans perdre tout à fait connaissance, je commençais à ressentir quelque chose d'extraordinaire. Le lumignon de la chandelle devenait de plus en plus grand et la hauteur du suif entre la flamme et la mèche, qui était la longueur de ma vie, devenait de plus en plus courte. Je calculais que j'avais à peine 1 heure et demie à vivre. 1 heure et demie ! Y avait-il une chance que, dans cet intervalle, on nous envoyât un bateau du rivage ? J'ignorais si la plage où le brick avait mouillé était au pouvoir de nos partisans ou de nos ennemis, mais je finis par comprendre qu'il devait tôt ou tard envoyer au devant du brick, simplement parce qu'il était étranger dans ces parages. Mais pour moi, la question était, arriverait-on assez tôt ? Le soleil n'était pas encore levé, comme je pouvais le voir en regardant par la fente de l'écoutille. Il n'y avait pas de village sur la côte, comme nous avions pu tous le voir avant que le brick ne fût envahi, car nous n'avions vu aucune lumière. Il n'y avait pas de vent, comme je pouvais m'en assurer en écoutant, pour amener aucun bateau étranger près de nous. Si j'avais eu 6 heures à vivre, il y aurait peut-être eu quelque chance pour moi du lever du soleil à midi. Mais seulement 1 heure et demie qui devait, en ce moment, être réduite à 1 heure et quart. À vrai dire, à cette heure matinale, avec cette côte inhabitée et ce calme de mort, il n'y avait pas l'ombre d'une chance. Au moment où je le sentis, je fis un autre effort, le dernier, pour rompre mes liens, et je ne fis que me couper plus profondément les chairs. J'essayai encore une fois, puis je restai tranquille pour écouter le bruit des rames. Il avait cessé. Plus un son ne se faisait entendre, excepté les mouvements d'un poisson qui allait et venait sur la surface de la mer et le craquement des vieux espars détraqués du brick qui allait doucement de côté et d'autre, entraîné par le clapotement qu'il y avait sur l'eau tranquille. 1 heure et quart. La mèche de la chandelle avait terriblement grandi pendant que le dernier quart d'heure s'était écoulé et son sommet charbonneux commençait à s'épaissir et à prendre la forme d'un champignon. Il ne pouvait manquer de tomber bientôt. S'il venait à tomber en flammes le long de la chandelle, ne pourrait-il pas mettre le feu à la mèche communiquant au baril de poudre ? Si cela arrivait, j'avais environ 10 minutes à vivre au lieu 1 heure. Cette découverte bouleversa mon esprit pendant 1 seconde et le fit virer de bord. Je commençais à réfléchir en moi-même ce que la mort par explosion pouvait être. Douloureuse ? Non, elle serait certainement trop soudaine pour cela. Peut-être simplement un grand fracas à l'intérieur ou à l'extérieur, ou dans tous les deux à la fois et rien de plus. Peut-être même pas un fracas. La mort et l'éparpillement de mon pauvre corps en 1 million d'étincelles brillantes pouvaient arriver au même instant. Je ne pouvais pas m'en rendre compte, je ne pouvais m'en former une idée. La minute de lucidité de mon esprit m'abandonna avant que j'eusse achevé cette pensée et je recommençai à battre la campagne. Lorsque je retournai à mes idées, ou lorsque mes idées me revinrent, je ne puis dire lequel des deux, la mèche était affreusement grande, la flamme était surmontée de fumée, le sommet charbonneux était grand et rouge et pendait lourdement comme s'il allait tomber. Mon désespoir et mon horreur en voyant cela prirent une direction nouvelle qui, dans tous les cas, était juste et bonne pour ma pauvre âme. J'essayai de prier dans mon fort intérieur, car vous comprenez que le bâillon que j'avais sur les lèvres m'empêchait de les remuer. Je voulus prier, mais la chandelle qui brûlait toujours semblait consumer mes intentions. Je luttai avec force pour arracher mes yeux de la flamme meurtrière et les reporter vers la lumière bénie du ciel à travers la fente de l'écoutille. J'essayai une fois, deux fois, puis je renonçai. Alors, je tentai de fermer les yeux et de les tenir fermés une fois, deux fois. Enfin, j'y parvins. Que Dieu bénisse ma vieille mère, ma sœur Lizzie, que Dieu les ait dans sa sainte garde et qu'il me pardonne. Voilà tout ce que j'eus le temps de dire dans mon cœur avant que mes yeux s'ouvrissent de nouveau en dépit de moi. La flamme de la chandelle voltigeait dans mes yeux, autour de moi, et recommençait à consumer en un instant le reste de mes pensées. Je ne pouvais plus entendre remuer le poisson, craquer les espars, ni penser, ni supporter la sueur qui tombait sur ma figure. Pendant l'agonie de ma mort, je ne pouvais que regarder le lumignon lourd et charbonné de la mèche. Il se gonfla, chancela, se courba tout d'un côté, puis tomba, rouge et enflammé au moment de sa chute. Il noircit l'innocent et s'affaissa sans faire aucun mal, et avant que le roulement du brick l'eût lancé au fond du bougeoir, il était éteint. Je me surpris à rire. Oui, je ris à l'heureuse chute du lumignon de la chandelle. J'aurais ri aux éclats si le bâillon ne m'en eût empêché. Enfin, je riais intérieurement, au point d'en trembler, et je tremblais tellement que cela me faisait monter le sang à la tête et je vus sur le point de suffoquer, faute de respiration. Il me restait juste assez de raison pour sentir que cet horrible accès de rire, dans un terrible moment, était le signe que je devenais fou, et j'avais encore assez de raison pour faire un dernier effort afin d'essayer de la retenir avant qu'elle s'échappât, comme un cheval effrayé qui prend le mort aux dents, et ne m'emportât. J'essayai encore une fois de chercher un regard consolateur dans le grand jour qui se montrait à travers la fente de l'écoutille. La lutte que je soutenais pour arracher mes yeux de la chandelle et jeter un regard vers le jour fut la plus pénible que j'eus jamais soutenue, et je fus vaincu. La flamme retenait mes yeux aussi sûrement que les liens retenaient mes membres. Impossible de m'en détourner, je ne pouvais même plus fermer les yeux lorsque j'essayais pour la seconde fois. Le lumignon recommençait encore à grandir, l'espace entre la chandelle non brûlée, la flamme et la mèche étaient raccourcis d'un pouce au moins. Combien de temps ce pouce de suif devait-il me laisser de vie? 3 quarts d'heure, 1 demi-heure, 50 minutes, 20 minutes. Attention, dis-je, un pouce de chandelle ne brûlera pas plus de 20 minutes. L'idée que l'âme et le corps d'un homme ne doivent être liés ensemble que par un pouce de suif. C'était merveilleux. Quoi, le roi le plus puissant, assis sur son trône, ne peut enchaîner dans cette étroite union l'âme et le corps d'un homme, et voici qu'un pouce de suif peut faire ce qui est impossible à un roi. C'est quelque chose qui mérite d'être raconté à ma mère quand je rentrerai au logis et qui la surprendra plus que tout le reste de mes voyages. À cette idée, je me mis encore à rire intérieurement. Je tremblais, je me gonflais, je suffoquais, jusqu'à ce que la flamme de la chandelle, en dardant dans mes yeux, en léchant mes rires et me brûlant, finit par me vider et me laisser froid et tranquille encore une fois. Ma mère est Lizzie. Je ne sais pas comment elle revenait, mais elle revenait toujours. Non point, comme il me semblait, dans mon esprit, cette fois, généralement, mais devant moi, en chair et en os, dans la cale du brick. Oui, certainement, voici Lizzie aussi gaie qu'à l'ordinaire. Elle me rit. Rire? Eh bien, pourquoi pas? Qui blâmera ma sœur Lizzie parce qu'elle pense que je suis couché sur le dos, ivre dans la cave, entouré de tonneaux de bière? Attention, ma sœur pleure maintenant en se tournant et se retournant dans un brouillard de feu, en se tordant les mains et en appelant au secours. Ses cris deviennent de plus en plus faibles, comme le bruit des rames de la chaloupe. Elle a disparu, elle est consumée dans le brouillard de feu. Non, il n'y a rien de cela. C'est ma mère qui produit la lumière, ma mère tricote avec 10 pointes flamboyantes au bout de ses doigts et de ses pouces. Je vois des mèches qui pendent en touffe autour de sa figure, à la place de ses cheveux gris. C'est ma mère dans son vieux fauteuil, et les mains longues et décharnées du pilote pendent sur le dos du fauteuil, ruisselante de poudre noire. Non, il n'y a ni poudre, ni fauteuil, ni mer, rien que la figure du pilote, rouge et brillante comme un soleil, et au milieu du brouillard de feu tournant dans cette brume ardente, courant çà et là le long de la mèche, au centre de cette atmosphère de feu. Un soleil qui tournait sur lui-même des millions de fois dans 1 minute, et devenant de plus en plus petit, jusqu'à n'être plus qu'un point. Et alors, ce point venait darder tout à coup dans ma tête, puis tout était feu et brouillard. Je n'entendais plus, je ne voyais, je ne pensais et ne sentais plus. Le brick, la mer, moi-même, le monde entier, tout disparaissait ensemble. Ce qui arriva après ce que je viens de vous raconter, mesdames et messieurs, je n'en sais plus rien. Je ne me souviens de rien jusqu'au moment où je me réveillai à ce qu'il me sembla dans un bon lit, avec 2 hommes grossiers et brusques comme moi, assis de chaque côté de mon oreiller. Un gentleman se tenait au bout du lit et me contemplait. Il était environ 7 heures du matin. Mon sommeil, ou ce qui me semblait être un sommeil, avait duré plus de 8 mois. J'étais au milieu de mes compatriotes, dans l'île de la Trinidad. Les hommes qui se tenaient de chaque côté de mon oreiller étaient des surveillants qui me gardaient chacun à leur tour, et le gentleman debout au pied de mon lit était le médecin. Ce que je fis et dis pendant ces 8 mois, je ne l'ai jamais su et je ne le saurai jamais. Il me sembla que je sortais d'un long sommeil. Voilà tout ce que je sais. 2 mois à peu près s'écoulèrent avant que le médecin jugeât convenable de répondre aux questions que je lui faisais. Le brick avait mouillé, comme je l'avais supposé, près d'une partie de la côte qui était assez solitaire pour laisser penser aux Espagnols qu'ils ne seraient pas interrompus dans l'exécution de leurs crimes tant qu'ils seraient protégés par la nuit. Les secours qui m'étaient arrivés n'étaient pas venus du rivage, mais par la mer. Un navire américain qui était abrité au large avait découvert le brick au lever du soleil, et le capitaine, n'ayant rien à faire à cause du calme plat, remarqua qu'il y avait un vaisseau mouillé là où il ne devait pas s'en trouver. Il équipa un de ses bateaux et envoya son second pour voir de près ce que c'était et lui faire un rapport sur ce qu'il aurait vu. Quand le second et les hommes aperçurent le brick abandonné et qu'ils l'abordèrent, ils virent un rayon de lumière à travers la fente de l'écoutille. La flamme de la chandelle n'était plus alors éloignée de la mèche que de l'épaisseur d'un fil. En descendant dans la cale, s'ils n'avaient pas eu la présence d'esprit de couper en deux la mèche avant de toucher la chandelle, lui, ses hommes, le brick et moi, eussions sauté. Le feu prit à la mèche, qui devint un feu incandescent, qui se répandit partout en sifflant, ce qui éteignit la lumière de la chandelle. Dieu seul sait ce qui serait arrivé si la communication avec le baril n'eût pas été coupée. Depuis ce jour jusqu'à ce moment, je n'ai jamais su ce qu'étaient devenus la chaloupe espagnole et le pilote. Quant au brick, les Américains s'en emparèrent, comme ils s'étaient emparés de moi, et m'amenèrent à la Trinidad. Ils réclamèrent leur droit de sauvetage, et j'espère qu'ils l'obtinrent. Ils me débarquèrent dans le même état où j'étais lorsqu'ils m'avaient trouvé dans le brick, c'est-à-dire entièrement dépourvu de raison. Mais je vous prie de vous rappeler, mes amis, qu'il y a longtemps que cela m'est arrivé, et soyez bien convaincus qu'on ne m'a renvoyé que tout à fait guéri, comme je vous l'ai dit. Dieu vous bénisse, je suis parfaitement bien, comme vous pouvez le voir. Je suis un peu ému de vous avoir raconté cette histoire, mesdames et messieurs, un peu ému, mais voilà tout.